d'une personne est très liée à celle de ses origines. Marthe Robin n'échappe pas à la règle. Elle est la fille d'un petit village de France, Châteauneuf-de-Galaure. Châteauneuf-de-Galaure. Marthe Robin est née en 1902 à Châteauneuf-de-Galaure, dans le centre-est de la France, ancienne province du Dauphiné, département de la Drôme, diocèse de Valence, à 70 km au sud de la grande ville de Lyon et à 46 km au nord de Valence, qui est la préfecture et le siège de l'évêché. Châteauneuf est situé dans la vallée de la Galaure, une petite rivière qui est un affluent du Rhône, dans lequel elle se jette à une vingtaine de kilomètres à l'ouest. Le territoire de la commune s'étend sur deux terroirs, la vallée elle-même, fertile, plate, et des coteaux situés au-dessus. Quant au village lui-même, sa partie ancienne est située sur les pentes du coteau. Une partie plus récente s'est construite au bord de la route départementale qui court le long de la vallée. Il était autrefois dominé par un château qui lui a donné son nom, le Châteauneuf, lequel a appartenu au cours de l'histoire à la famille de Moirand, puis à celle de Montchenu. Il était alors en mauvais état. Il ne subsistait qu'une partie du corps de logis et des écuries. Outre l'agglomération principale qui comptait à l'époque 676 habitants, Châteauneuf comprenait deux agglomérations séparées. Saint-Bonnet-de-Galaure, qui avait 539 habitants, et Traigneux, avec 137 habitants. Par la suite, Saint-Bonnet est devenu une commune autonome. Ces trois ensembles, Châteauneuf, Saint-Bonnet et Traigneux, étaient, au début du XXe siècle, trois paroisses différentes. Châteauneuf est alors une commune rurale. La plupart des habitants vivent de la terre, à l'exception de quelques artisans. On est en plein dans la France profonde d'avant la guerre de 1914, dans un monde au rythme lent, lié au sol, où l'on travaille dur pour vivre, sans pouvoir compter sur l'aide de l'État pour subsister en cas de besoin. C'est une société où les repères sont bien établis. Chacun sait qui il est et ce qu'il doit faire. On ne remet pas en cause la morale, l'amour du travail, l'amour de la patrie. La plupart des habitants s'attendent à se marier sur place et à reprendre la ferme familiale. Nous verrons cependant que le monde a déjà commencé à changer. Sur les coteaux, au-dessus de la vallée, on trouve plusieurs hameaux rassemblant quelques maisons. Au lieu-dit La Plaine, ce qui signifie en fait le plateau, l'un de ces hameaux se nomme Les Moelles. Il comprend trois fermes. La ferme à Char et deux autres très proches l'une de l'autre, occupées alors par des cousins, les deux familles Robin. Ceux-ci ont en commun, sous le même toit, leurs bâtiments agricoles. Le puits est également commun. Aux Moelles, on se sent assez loin du village situé en contrebas, à 2 kilomètres. Le paysage est complètement différent. On n'est plus du tout dans la vallée. Sur le coteau, la vue est immense quand le ciel est dégagé. À l'est, on voit les montagnes du Jura, celles des Alpes avec le Mont Blanc, point culminant de l'Europe, 4807 mètres. Le massif de la Chartreuse, au-dessus de Grenoble. Le Royan et le Vercors. À l'ouest, au-delà du Rhône, on aperçoit les monts du Vivarais avec le mont Pilat. La vue s'étend vers le sud jusqu'au mont Lozère, soit environ 200 kilomètres de montagne à l'est et un peu moins à l'ouest. Plus tard, Marthe Robin dira que du peuplier, situé à environ 300 mètres de sa ferme, on voit le quart de la France. C'était un peu trop, mais cette expression est significative de ce qui se disait dans le pays. Sur le coteau, parfois, la vue était immense et l'air vivifiant. Aucun obstacle n'y retenait le vent venu des montagnes. La famille de Joseph Robin, père de Marthe, est propriétaire de sa ferme et d'une exploitation agricole de 13 hectares. L'exploitation n'est pas grande et la terre sur le coteau est moins fertile que dans la vallée. Les Robin ne sont pas riches, on peut même dire que leur exploitation est modeste. Mais ils sont chez eux, dans leurs biens. Ils ne font pas partie du prolétariat agricole. On ne peut pas non plus les qualifier de vraiment pauvres. Ils ont ce qu'il faut pour vivre, même si c'est au prix de beaucoup de travail et sans aucune aisance. Les enfants iront à l'école primaire, qui donne alors d'excellentes bases pour toute la vie. Mais le milieu est peu cultivé, même fruste. Nous disions que le monde a commencé à changer. En effet, la vallée de la Galaure est atteinte par la lutte anticléricale qui caractérise une bonne part de la vie de la Troisième République. Au XIXe siècle, l'État ne s'occupait pas ou s'occupait peu de l'instruction. Les communes s'adressaient donc souvent à des religieux et à des religieuses qui ne coûtaient pas cher, donnaient une éducation réputée, sûre et sérieuse, et enseignaient la foi aux enfants. La Troisième République chasse les religieux et les remplace par des instituteurs formés dans des écoles normales, qui sont, selon Marcel Pagnol, des séminaires d'anticléricalisme. À Châteauneuf, après le départ des frères et des sœurs, l'école laïque devient un centre de propagande anti-religieuse auprès des enfants. Un groupe anti-chrétien se constitue dans le village et fait pression sur la population. Une loge maçonnique se monte même à Châteauneuf et contrôle plus ou moins les élections. Marthe Robin verra un jour son catéchisme déchiré par quelqu'un dans une rue du village. Elle racontera en 1961 « Un jour, j'allais au catéchisme. J'avais sous le bras une édition à couverture brune. Un monsieur de Châteauneuf me dit « Où vas-tu ?» Bien fièrement, je lui répondis « Au catéchisme. » « Et ça ?» désignant mon caté, « Montre-le-moi. » Je lui passai mon caté. Il le prit et le déchira en deux. Mais je me suis tant attachée à ce livre que depuis ce moment-là, je l'ai gardé comme ça, déchiré, comme une relique. Je devais avoir 7 ou 8 ans. La confiance dans l'Église diminue, la pratique baisse. Les hommes vont moins à la messe, des familles entières décrochent. À Châteauneuf, le nombre des communions pascales tombe de 105 hommes et 200 femmes en 1897 à 37 hommes, 92 femmes et 47 enfants en 1926. Les témoignages des curés sont formels sur la volonté de déchristianiser. Certes, la vie religieuse continue. Tous les enfants sont baptisés, on se marie à l'église, il y a peu d'enterrements civils. Mais il y a une crise réelle jusqu'au fond de la campagne. La venue d'un enfant. À l'époque, les femmes accouchent chez elles. Marthe Robin naît donc dans la ferme de ses parents, le jeudi 13 mars 1902 à 17h. Elle est la dernière enfant de ses parents, Joseph et Amélie, qui s'étaient mariés en 1889. Avant elle, il y a donc 5 enfants. Célina, Marie-Gabrielle, Alice Victorine, Henri-Joseph, Clémence. Le père a la réputation d'un homme affable, gentil, très habile de ses mains, cependant autoritaire, et la mère est une femme souriante et accueillante. Mais il semble bien qu'il y ait eu un moment difficile entre les époux. Amélie Robin aurait eu une aventure avec un ouvrier de ferme employé chez les cousins Robin. Le bruit a couru dans la famille et dans le pays que Marthe n'était pas la fille légitime de son père. Elle-même en aurait été persuadée. Mais si plusieurs témoignages vont dans le sens d'une conception illégitime de Marthe, ils ne permettent pas d'acquérir une certitude complète sur ce point. Quoi qu'il en soit,